Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello les légendes, deuxième partie du hors-série avec Fabs Barrault, statisticien de Gilles Servaral, coach de Daniil Medvedev, Fred Fontan, coach de Félix Auger-Aliassime, ainsi que de la Tchèque Bouskova, 50e mondiale. Notre expert nous fait vivre match par match l'épopée victorieuse d'un autre de ses clients, Nico Mahut, qui s'est envoyé Roland-Garros 2021 avec son compère P2H. Mahut et Herbert, qui surfent sur leur confiance de Roland, viennent de s'envoyer la TP 500 du Queens pour la troisième fois, rien que ça. Avant de lancer notre échange, sachez que vous avez accès à 4 optimisations statistiques gratuites en description de l'épisode. C'est le premier lien, c'est 1h14 de secrets de statisticien pour mieux comprendre votre style de jeu. Foncez découvrir cette ressource qui va vous faire comprendre mieux que jamais votre ADN de joueur ou de joueuse et vous permettre de grappiller de précieux points en match. Et si le contenu vous plaît et que vous souhaitez aller plus loin, on a tourné 33 optimisations statistiques. C'est 20 heures de contenu dont les retours font chaud au cœur et permettent de gagner jusqu'à 15% de matchs en plus grâce à la stat. Enfin, si vous voulez récupérer vos propres statistiques de match et les analyser de manière aussi pointue que Fab, on a tourné une formation dédiée, troisième lien en description. Fabrice vous livre tous ses secrets, ses 15 ans d'expérience et plus d'un million de points analysés. Sans plus attendre, place à cette deuxième partie de ce nouvel hors-série stat. Bonne écoute et bonne découverte à tous.
Pour terminer ce hors-série, je t'ai dit qu'on allait regarder match par match, donc là on risque de s'enflammer un petit peu plus, parce que je vais juste refaire tous les matchs.
Ouais, d'un point de vue émotionnel.
Ouais, rationnel, émotionnel, il y aura un mélange des deux, mais c'est clair que plus on va arriver à partir de la demi, je te promets qu'on n'est plus... Donc, premier tour, alors, déjà, hein, je vais juste faire un petit brief de où ils en étaient avant Roland-Garros. Ouais. Avant Roland-Garros, c'est perd quart de finale à Monte-Carlo, je crois quart de finale à Madrid, premier tour à Barcelone et finale à Lyon. On ne peut pas dire que pour une équipe top 10, ouais, qu'ils sont arrivés, ils ont gagné des matchs, mais ils ne sont pas arrivés dans la plus bonne des confiances à Roland-Garros en termes de victoire. Il n'y a pas une victoire contre une équipe top 10. Ils ont pris un score sévère contre Metkic-Pavic, donc les numéros mondiaux qui n'ont pas pu jouer à Roland-Garros d'ailleurs parce qu'un était testé positif. Ils ont pris un score sévère contre Farah Cabal à Barcelone, et ils perdent en finale de Lyon contre Hugonis et Puet.
Team Putz.
Ouais, Puet, mais ça dépend comme tu veux. Mais attends, ils ont fait un très bon match, Hugo et puis machin, je ne veux pas du tout dénigrer leur performance, mais pour une équipe top 10, c'est pas des performances, t'arrives pas à Roland-Garros avec la montre confiance en étant les favoris. C'est clairement des outsiders.
C'était assez décevant, ouais, comme tournée sur terre battue.
Ouais, mais même pas cette tournée. C'était depuis le début de l'année. Ouais. Pas décevant, mais depuis le début de l'année, c'était des résultats entre deux. On ne peut pas dire que c'était des grands résultats. Comme je dis, il n'y avait pas une victoire contre une équipe top 10, il me semble. Ouais. À l'Open d'Australie, ils perdent Medkic-Pavic. À Acapulco, ils perdent de nouveau Granollers-Zeballos. Ils perdent pour la première fois. Je crois que la meilleure team qu'ils ont battue, c'est Roger Vasselin et Kontinen. Il me semble comme ça. Donc,
du coup, Nico a repris 3 places au classement. Je vois qu'il est
3e mondial. Ouais. D'ailleurs, il est 3e. Il est repassé de 6 à 3 ou de 7 à 3. Donc, premier match de Roland-Garros, ils entament donc leur quinzaine contre Nori Omara, une paire anglaise. Il leur avait mis une branlée au premier tour de Lyon, 6-1, 6-1. Donc, on partait assez confiant sur ce match. Ouais. Mais c'est avéré que ça a été un match bien plus compliqué que ça. Les Anglais, ils ont fait un super match. En tout, il y a eu 6-3, 3-6, 6-3. Je trouve pas un mauvais match de Nico et de Pierre-Hugues, mais surtout un très bon match des Anglais. Et là, sur ce match, chaque fois, je vais donner le classement. Nico a fini 3e. Donc, toi aussi, une entame un petit peu 3e sur les 4 joueurs en termes de balance personnelle. Donc, ouais, une entame de tournoi un petit peu tendue avec 2 Anglais qui jouent super bien. Ça passe en 3-7. Mais tu vois, on parle pas d'une entame de Roland-Garros, je gagne 2-2 contre une équipe, alors que c'est déjà 3-7. Ouais. Deuxième tour, il joue contre Erlich spécialiste de double israélien, et Harris. Harris qui est un très très bon joueur de double en ce moment, Lloyd Harris. Ça, c'est des paires assez compliquées parce que, bah, comme Nori Omara, tu as un bon joueur de simple et un spécialiste de double. Ça fait des fois des paires un peu compliquées. Là, il gagne 6-3, 3-6, 7-5.
Avec. Serre des fesses. Hein.
Ouais. On aurait pu, on était à deux doigts de partir dans un match facile en 2-7. Il y avait 6-3 balles de break pour eux. Du coup, ils ne la font pas. Bing, on se prend 6-3. Et troisième set tendu, quoi. 7-5. C'est tendu. C'est pas un troisième set où tu déroules. C'est, tu dis, on est peut-être pas loin d'une surprise, quoi.
Ouais. Il break à 6-5.
Ouais, exactement.
Il, ouais, 5-5.
Pas, 5-5. Après, ils savent pour le match 1 des deux. Okay. Et les mecs en face, de nouveau, Harris et Ehrlich font un très, très, très bon match. Mm. Et Nico et puis Pierre-Hugues font pas un match mauvais. Un peu tendu, tu vois, pas à 100% dedans. Mais de l'extérieur, en tout cas, en termes de stats, c'est pas un si mauvais match que ça.
Ehrlich et Harris collent quand même 1 et 2 à Schwartzman et Coria. Bon, ouais. C'est pas des joueurs de double, mais il faut quand même aller leur
foutre. Ouais, et puis Ehrlich, c'est 20 ans d'expérience en double. Et puis Lloyd, Lloyd Harris, c'est un mec qui est en train de jouer ultra bien simple. Ouais. C'est pas un match facile. Et puis le score nous montre que c'est pas un match facile. Yes, et donc sur ce match, Nico termine en première place. Allez.
Je crois qu'on passe encore un degré de stress au tour d'après.
C'est là que ça commence. Le troisième match le plus stressant du tournoi, c'est clairement Azeztrouf. Où ils se prennent 6-0 au premier set.
Une bulle.
Et là, c'est un set qu'on avait déjà vu contre Cabal Fara à Barcelone, un premier set où ils passent complètement à côté. Et franchement, vas-y, ton troisième tour de Roland, t'es mené 6-0. Tu l'amènes pas large, quoi. C'est douche froide, vraiment une douche froide. Après, bonne réaction au deuxième set, où ils arrivent à s'imposer 6-3. Et le troisième... C'est un set franchement tendu du début à la fin, break, des breaks. Ils sont menés 5-4, service Pierre-Hugues assure. Et derrière, on se retrouve 7-5 gagné dans le tie break. Quoi.
Putain, chaud. Et il s'est passé quoi pour qu'ils se prennent une bulle dans le premier?
Mauvaise entame de match. Clairement, mauvaise entame de match, des doubles fautes. Tu vois, et les autres jouent bien. Attends, à côté, on a Azeztrouf, c'est des deux mecs qui jouent en double limite à l'année. Non, à l'année, pardon, pas limite à l'année. Et qui ont joué pleinement leur chance. Ouais. Et une fois de plus, on parle d'une équipe qui n'est pas 100% en confiance.
Ouais.
Qui arrive, je te dis, à Roland-Garros avec aucun titre sur Terre, des matchs perdus contre des top 10. Et qui viennent se faire deux matchs en 3-7 contre deux équipes mal classées par rapport à eux. Donc, tu n'arrives pas au troisième tour avec une confiance de dingue. Après, à tout moment, nous, moi, je me disais, yes, ça peut être le match révélateur où ils mettent 2 et 3 et c'est lancé. Mais ce n'est jamais arrivé. Donc, voilà. Et on arrive au troisième set, donc ce match où ils gagnent 7-6 à l'arrache, 7-5 dans le tie-break. Et là, c'est déjà une délivrance. Tu es là, c'est là, waouh.
Ils ne sauvent pas de balle de match à 6-5 ou 5-4?
Non, il n'y a pas de balle de match. Balle de match, on en reviendra, c'est demi-finale. Et aussi à ce moment, le match contre Azeztrouf, si mes souvenirs sont bons, il n'y a plus aucun Français dans tous les tableaux seniors.
Ouais.
Non, plus un. Tous les Français ont perdu au deuxième tour cette année, hein, tu me le confirmes.
Oui, je te le confirme.
Masculin, féminin. Ça veut dire qu'arrivé au match Azeztrouf, Nico et Pierre-Hugues, c'est les derniers Français dans les tableaux seniors. Ah ouais. Donc, tu as une pression supplémentaire aussi. Tu dis, tu as envie de bien faire, tu as le public qui revient. Donc là il, c'est en train de se passer quelque chose déjà que je considère d'extraordinaire. Par le fait que tu as un public qui a été absent pendant un moment, tu es en France et tu as les derniers Français en lice. Et tu te prends 6-0. Donc, et les mecs arrivent en cette force mentale, qu'ils ont montré d'ailleurs tout au long du tournoi, cette force mentale pour redresser la barre et de gagner 7-6 au troisième. Donc, chapeau à eux. Ouais. Et là, on commence déjà l'émotion. Après, Berkic-Kacic, la paire croate. Vas-y,
tu as une question. Est-ce que tu sens dans les échanges avec Arnaud que la confiance monte quand même grâce à cette victoire un peu à l'arrache, qu'ils ont pris leur repère, que ça y est,
On a peu de discussions par rapport à ça. D'accord. Tout en sachant qu'en parallèle, je suis aussi bien occupé et je travaille avec d'autres équipes. C'est pas comme si je faisais partie intégrante 100% de l'équipe où j'ai tous les retours.
Ouais.
J'en ai un certain nombre, mais pas non plus dans tous les détails. Donc, je peux pas te le dire.
Tu bossais donc avec Gilles Servara pour Danil, avec Fred Fontan pour Félix, et chez les filles, tu as bossé
Bouskova et
pour...
puis une autre personne. Mais Bouskova et puis Félix ont perdu au premier tour. Et puis par contre, Daniil a fait un super tournoi. Mais j'avais pas mal de temps, mais aussi savoir que la deuxième semaine de Roland, tu avais la première semaine sur herbe. Là, j'avais des. Bref.
Une petite pause pour vous rappeler de nous mettre un like si vous êtes sur YouTube, ce qui nous aide à faire connaître le contenu, ainsi qu'un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous voulez progresser dans votre jeu grâce à la stat, vous avez accès à 3 contenus en description de l'épisode. Foncez, jetez un œil.
Alors, Berkic-Kacic, là, je fais déjà une énorme préparation sur tous leurs matchs. Je me dis, c'est un bon quart de finale. Tu as ces deux mecs qui sont des très bons joueurs de double, évidemment, mais ce n'est pas Farah Cabal, ce n'est pas Granollers-Ceballos. D'ailleurs, je crois qu'ils battent Granollers-Ceballos. C'est-à-dire qu'ils devaient avoir Granollers-Ceballos. Si mes souvenirs sont bons, ouais, je suis quasi sûr. Ils battent Granollers-Ceballos, ils devaient les avoir en quart. Et t'imagines qu'en quart, ils avaient perdu deux fois cette année. Donc, ça aurait été un match un peu plus compliqué, je trouvais, sur le papier. Après. Le score, c'est 7-6-6-1. Premier set ultra tendu, quoi. Ultra tendu. Ce n'est pas un 7, 7-6 où ils sont tout le temps au-dessus. Nico sauve balle de break sur son service. C'est ultra tendu. Par contre, après, au tie-break, il y a une certaine délivrance. Nico commence, je me rappelle, par un super bon retour de revers le long de la ligne. Ça les propulse 1-0. Derrière, Pierre-Hugues fait deux services gagnants. On est à 3-0. Les mecs font une faute directe 4-0. Ça va super vite, des fois, le double. Et là, tu te retrouves d'un set ultra tendu. Qui, je pense, aurait pu aussi tourner en notre défaveur à 4-0. On a le premier set dans la poche et les Croates ont lâché dans le deuxième. C'est eux, de mon point de vue, c'est plus eux qui ont lâché dans le deuxième. 7-6-6-1. Premier match de Roland gagné en 2-7. Et sur ce match, Nico termine en deuxième position. Je ne l'avais pas dit, mais contre Azé, je trouve, il termine également en deuxième position.
Ok.
Il se place bien, hein? Il n'y a qu'une fois qu'il a été en troisième. Et après, donc là, on arrive dans l'émotion commence à monter. Là, on est demi-finale, Farah Cabal. Donc là, eux, tu vois, c'est la première équipe du tournoi où j'ai une base de données sur eux. Parce qu'ils sont numéro un mondial, où ils étaient deux. Là, ils sont deux maintenant, parce qu'ils se sont fait dépasser depuis le début que je travaille avec Nico. Donc, j'ai une base de données, il y a un historique entre eux, j'ai des matchs sur Terre, j'ai de quoi faire une base de données sans perdre 5 heures de prépa. Donc
Yes.
ça m'enlève aussi un poids, j'ai de la bonne donnée sans travailler trop, tout en faisant bien. Mais le match, je ne sais pas si tu te rappelles, ils font un super départ, ils break d'entrée, on se dit wow, c'est parti, ça va être une demi-finale, tu sais, en 2-7 pour nous. Derrière, ils se font débreaker d'entrée tout de suite, ça fait un partout. À partir de là, il y a un match super serré qui s'entame jusqu'au tie-break. De mon point de vue, un léger avantage pour les Colombiens, c'est comme ça que je le ressens. Et souvent, quand j'ai ressenti cette saison un léger avantage pour les autres, ça s'est confirmé sur un tie-break ou sur un break. Et là, je ne me trompe pas, 7-6, Farah Cabal, ça joue à rien, hein, ça joue un ou deux points. Mais j'avais
7-2 dans
cette
ta break
sensation
quand
qu'ils
même,
étaient un tout petit peu au-dessus depuis le tie-break à 1-1. Et là, ensuite, une fois de plus, dans le tie-break, deux retours gagnants de Cabal, deux retours ratés entre Nico et Pierre-Hugues. Ça décolle. Le tie-break part tout de suite dans leur direction. Donc 7-6, de nouveau, mené 1-7-0, contre cette fois la paire numéro 2 mondiale et la meilleure équipe en lice, parce que comme je te dis, Mektic Pavic n'était pas présent à cause de 1, était testé positif. Et là, de nouveau, on est derrière. Et mon pressentiment du premier set, qu'ils étaient légèrement en dessous, s'accentue dans le deuxième et ils sont donc breakés.
Ouf.
4-2, 5-3. À 5-3, Pierre Huxer. Et là, comme tu le sais, les gens vont pas mal se rappeler de ça. 15-40 sur son service. À 15-40, je me rappelle, j'ai noté les points de ce qui s'est passé. Service de Pierre Hugues, il a une balle en l'air, il fait un smash. Faut le faire. Et deuxième balle de match, il la sauve sur une deuxième service gagnant. Si tu as regardé tous les matchs de la team, Pierre Hugues, c'est le joueur qui fait le plus de double faute sur le terrain. Donc, quand tu as une deuxième balle sur balle de match, et qui te fait un service gagnant, mais t'es limite on est dans du all-in au poker là. C'est hallucinant. Moi, je ne me suis même pas rendu compte sur le coup.
Il fait combien de doubles par match en moyenne, Pierre-Hugues?
Je ne peux pas te dire, mais plus que les autres. C'est ça, c'est ce que je
Et
peux t'assurer.
à 15-40, tu dis, bon, allez, terminé, bonsoir, je suis en vacances.
Je suis dans ce match, je suis dans l'émotion. Donc, de toute façon, je suis dans l'émotion et je n'ai pas un sentiment confiant.
Ok.
J'ai un sentiment que les autres sont légèrement meilleurs. Quand ils break dans le deuxième, ça me paraît dans ma tête limite logique. Après 5-3, dans ma tête, ouais, je suis pas très positif à ce moment. Mais bon, je dirais, je suis à 2000 km d'eux. Heureusement, j'influence pas sur l'équipe à ce moment. Je suis derrière mon ordinateur, pas confiant dans mon lit. Je suis
Et
pas.
à
Mais je
5-4.
suis pas confiant. Attends, 5-3, il les fait. Ils sauvent les 2 balles de match. Égalité, de nouveau avantage pour les Colombiens. Et là, c'est Farah qui rate son retour de coup droit sur deuxième balle. Et là, 5-4. 5-4, ils débreakent, je crois, Cabal à 15. Ils ont gagné qu'un point. Ah, putain, ils font deux, je crois, deux, trois bons retours. Il se passe quelque chose. Là, 5-5, tu as un momentum, comment on appelle ça, un momentum change, changement de momentum complet. Et là, le match, c'est clair. Imagine en plus le public. Le public, il a tout pour s'enflammer. Tu viens de sauver 3 balles de match. Tu es les derniers Français en lice. Tu joues une demi-finale d'un grand chelem. Le public joue son rôle. Bah, tout le match, il a joué son rôle, mais encore plus à ce moment. Le momentum chain change complètement. Et ça fait donc 7-6, 7 points à 2 dans le tie-break.
C'était sur quel cours?
Simone, quelque chose? Il n'y a pas un cours qui
Simone
s'appelle.
Mathieu, ouais. Simone Mathieu.
C'est ça, c'est sur celui-là, il me semble. Ambiance de malade, 7-2 dans le tie-break. Et troisième, tu vois, là, du moment que le deuxième set est gagné, là, moi, j'ai un feeling positif. Je vois que le momentum, il a changé et c'est eux qui vont gagner. Et il gagne 6-4, le troisième. Mais là, je suis que dans l'émotion. Dans le sens que, même si maintenant, après coup, là, j'ai revu les stats ce matin pour préparer ce podcast. Quand tu vois les stats, elles sont assez en leur faveur. Mais
Okay.
quand j'étais dans le match, j'étais pas du tout confiant. Même quand il y a eu le break, et en plus, quand Pierre Hugues sert pour le match, il y a deux doubles fautes, voire trois doubles fautes dans le jeu. Et des services gagnants, t'es là de nouveau, mais un stress complet, quoi. Et une délivrance. Et ce match a été aussi annoncé comme la finale d'avant-lettre.
Bah oui, il joue la tête de série 2, la tête de série 1 a déjà disparu.
Elle n'est jamais venue. Et puis, en finale, on a une paire complètement qui sort de nulle part avec Bublik Golubev. Donc, tu dis, c'est une finale avant la lettre. On gagne celui-là, on gagne le titre. C'était comme ça que tu le ressens. Donc, tu as une pression de malade mental sur ce troisième set. En tout cas, moi, j'ai été tendu comme c'était pas possible et c'était une délivrance magnifique à la fin.
T'étais tendu, mon Fab.
C'était
Ah
tendu.
ouais, je suis en train de remarquer qu'au double, si la tête de série 1 n'est pas présente dans le tableau, elle n'est pas remplacée par la suite du classement, quoi.
D'accord, je savais même pas.
Là, c'était Andújar Martínez tout en haut, tu vois.
Ah, mais oui, puis en plus, ils font la demi comme les repêchés. Ah, elle est marrante, celle-là. Parce qu'ils
Et
font demi-finale.
en revanche, la vraie tête de série 2, Cabal Fara, est tout en bas. C'est
Ouais.
différent du simple, ouais. Ça, je
Et
savais
puis,
pas.
juste pour te refaire une dernière anecdote stats pour le match contre Cabal Farah, au final, ils ont gagné 114 points, Pierre-Hugues et Nico, et
Ouais.
les autres en ont gagné 120.
Oh, c'est incroyable.
Donc, tu as un déficit de 6 points. Tu vois, mon ressenti, comme quoi ils étaient dominés, c'est que les mecs gagnent leur jeu à 0, leur jeu à 15, eux en égalité. Tu vois, c'est ce ressenti. C'est dire, ils sont à peine meilleurs dans le jeu. Et à la fin, les mecs gagnent en 3-7, mais ils ont perdu 6 points de plus. Donc, c'était tendu.
Est-ce que tu
Maintenant,
passes un peu de temps au téléphone avec Agnelle entre la demi et la finale?
non, non,
Même pas,
non,
non?
absolument, très très peu. On
Ok.
a des messages, on a notre groupe. J'envoie les informations, j'envoie les prépas, j'envoie les feedbacks, et c'est là.
Ah oui, ils sont pas là
Après, oui.
pour se disperser, les gars. Hein, putain.
Hein?
Ils sont pas là pour se disperser, quoi.
Non, 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 ça, c'est très pro. Et puis, ouais, peut-être après Arnaud, je lui ai envoyé un message en privé à lui. Je dis, putain, c'était chaud, quoi. C'est ce genre de choses, mais on n'est pas en train de discuter pendant une demi-heure du match, les deux. Non, on n'a pas cette complicité dans ce sens.
Ok.
Si ça se faisait, si ça se ferait, ça pourrait se faire peut-être, mais là, ce n'est pas fait sur ce tournoi, c'est tout.
Yes.
Donc, après, Bublik Golubev, autant te dire qu'avec la tension de la veille du match de Farah, c'est là que je me fais mon marathon. Mais en plus, c'est vrai, c'est marrant, ça. Mais le marathon de 6 heures de prépa de match, ça m'a fait penser, tu vas te marrer peut-être, ça m'a fait penser au poteau de Koh-Lanta.
La cérémonie des poteaux.
Non, parce que, tu sais, les mecs, bon, moi, je suis pas mal Koh-Lanta depuis des années, ils se disent, quand ils arrivent sur les poteaux, ils se refont toute leur aventure sur les premières. Ben, ils vont y rester un moment sur leur poteau, d'ailleurs. Et là, dans les 6 heures quand je prépare cette finale, je me dis, putain, pas que je revis tout le tournoi, mais tu dis, ça vaut la peine. Je vais franchement, de mon côté, de ce que moi, je peux faire dans l'équipe, je vais faire mon maximum pour leur donner cette information. Et tous les matchs, 6 heures, c'est long, hein, et c'est 6 heures de saisie non-stop. C'est pas 6 heures de match. Si tu veux, il y a eu 9, 10 heures de match, mais moi, en saisie, ça me fait moins. plus la prépa. Et pour tout ça, je pense à cette finale et je me dis, si je peux leur amener qu'un seul point,
Ouais.
6 heures valent la peine. C'est la finale, c'est comme la finale de Koh-Lanta, c'est la finale de Roland-Garros, quoi.
C'est là où on sent que tu es habité et que c'est un métier de passion. Passer 6 heures dans l'espoir de ramener un seul point qui pourrait faire la diff,
Ouais.
mentalement, toi, tu es solide, mon gars.
Mais voilà, c'est là peut-être que. Mais c'est là que je dois me démarquer. Parce que j'amène une nouvelle valeur avec la stats et j'espère aussi de l'amener par rapport à qui je suis comme être humain. Et si je mets cette passion et tout ça, ils le ressentent aussi. Je dis, Arnaud et Nico, ils ressentent que le mec qui derrière fait de la stats, il ne le fait pas pour l'argent. Il le fait pour le titre aussi. Et ça, en faisant ce genre d'effort, eh ben, je pense qu'il. Bah, ils le savent et ils me connaissent maintenant depuis 1 an et demie. Ils savent comme je suis par rapport à ça. S'il faut faire l'effort, je le fais.
Yes.
Donc, mais moi, voilà, j'en viens maintenant sur la finale. Je t'avouerais que je partais dans l'idée que ça allait être une finale en 2 sets pour Nico et Pierre-Hugues. Ça, c'était mon ressenti. Je me dis, hey, ils ont fait le plus dur contre Farah Cabal. La préparation, elle est vraiment claire. On a des tendances claires sur Bublik, on a des tendances claires sur Golubev. On y est.
Golubev, Bublik sont 39 et 36, j'ai regardé
Voilà,
en
puis il y a de
double.
monter.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Avant ce tournoi, t'as vu, ils viennent de faire une finale de Grand Chelem dans les points.
C'est une surprise, clairement, qu'il soit là en finale.
C'est clairement une surprise.
Ouais.
Mais ils ont battu plein de bonnes équipes. Hein. Ils ont battu des spécialistes de double. Ils ont battu Royer et puis Kulhof. Ils ont battu une autre équipe. Ils ont battu Tekao Kravitz. Non, Tekao Kravitz, c'est des autres qu'ils ont battus.
Ils
Mais
ont
ils ont
battu
battu.
Nice et Poots
Ouais, Nice en
en
quart. Et ils ont
quart.
battu une autre bonne équipe. Oui, ils ont battu Dodik Polasek qui ont gagné l'Open d'Australie. Donc ils te battent
Yes.
deux super équipes. Donc les mecs. Quand tu vois leur parcours, déjà là, quand je me suis fait tous les matchs, je me suis dit, ah, d'accord, je pensais que ça allait être facile, mais ils méritent leur place en finale. Mais j'avais quand même un sentiment super. Hein?
Notre ami Andujar a fait demi-finale en double, c'est quand même incroyable.
Andujar, là, il est en train de te faire demi en double. Il te bat Roger à Genève et il te bat Tim à Roland. Il est en train de faire une fin de carrière exceptionnelle.
C'est bon ça.
Alors, derrière, je pars positif, mais dès le début de match, tu es tendu. Ils sont tendus. Il y a un enjeu énorme. C'est un match tendu. Et il y a break à 2-2, double break. Donc ils sont menés 5-2.
OK.
Après, ils refont un break 5-4, 6-4. Et là, tu dis, là, les gars, vous êtes dos au mur. Finale
Clairement.
de Grand Chelem. Et puis, d'un autre côté, tu as un Bublik Golubev qui joue complètement leur chance. Puis tu vois comme il est, Bublik. On savait que c'est un fou. C'est pas le mec qui va stresser en finale. On en reviendra. Parce que par contre, il a stressé à la fin. Mais c'est pas un mec qui. Ils jouent sa chance, ils sont là, eux sont tendus, ils méritent leur 6-4. Et dans le deuxième, on se dit, dos au mur, il va y avoir une réaction, comme il y a une réaction contre Azé, comme il y a une réaction dans d'autres matchs. Il n'y en a pas. C'est de nouveau tendu.
Bublik a fait une révélation récemment en disant qu'il n'aimait pas le tennis, qu'il jouait pour la thune.
Ah, tu m'avais dit, ouais.
Tu crois à ça ou pas?
Non. Non, mais Bublik, c'est aussi un
Penses que
mec.
c'est de la provoque?
Bublik, c'est un mec, ouais, c'est un mec qui aime aussi dire non un peu. Moi, je l'ai croisé une ou deux fois au tournoi. Il vient vers moi, il me parlait, il me disait des trucs. Ouais, mec, c'est pas possible ça. Tu vois, pas... Il vient comme ça.
Ok.
Franchement, il aime. Tu regardes sa gueule quand il joue au tennis. Dis-moi pas qu'il n'aime pas le tennis.
Il est en
Il
kiff,
a
ça se sent.
le smile, il se fait plaisir, il essaye des trucs. Il kiffe. Il n'est pas en train de jouer un jeu complètement barbant, de remettre la balle croisée en se disant ah, si je remets croisée, c'est que c'est ma force, je me fais chier à mourir. Et moi, j'y crois pas, non. Mais par contre, c'est un mec qui aime. Peut-être qu'on parle de lui, un petit peu des pattes. Mais il arrive en finale, il était là, le Bublik, tu vois. C'est un mec qui est mou en termes de stats. Il ne se passe rien, il va te rater des retours. Il s'en fout. Et d'un coup, il a de la magie qui peut arriver à tout moment. À tout moment, il te fait deux aces en retour gagnant, un truc entre les jambes, et il te tourne un match. Et c'est un petit peu ce qu'il a fait dans cette finale.
Yes.
Et il est dangereux. À tout moment, il peut être dangereux. Donc, deuxième set, donc, il y avait quand même une réaction 3-1. Pour les Français, mais ils se font breaker, Nico se fait breaker. Et Nico se refait breaker une deuxième fois à 4-4. Et là, tu arrives dans le scénario cauchemar. Là, c'est le cauchemar. 6-4, 5-4, et en plus, service Bublik, qui est le meilleur serveur en double du tournoi, peut-être. Moi, j'ai fait toutes ces stats de lui jusqu'en finale. Je sais que c'est le meilleur serveur du tournoi.
Putain, Bublik sert pour le match, pour le titre.
Bublik sert pour le titre. Là, je ne suis pas confiant du tout. De nouveau, comme contre, quand ils sont menés 5-3 contre Farah Cabal, je ne suis pas confiant. Je dis, le match était tendu, ça n'a pas tourné pour nous.
La feuille à 4-4, qu'est-ce qui s'est passé pour se faire breaker, là?
4-4, il y a de la tension, il y a Nico qui rate une volée, il y a peut-être une double faute, il y a Pierre-Hugues qui rate une volée, je sais que sur la balle de break, il rate une volée simple. Voilà, tu ne dis pas de bol, ça tourne contre nous, mais et puis Bublik qui sert à 5-4, alors qu'il a, je crois qu'il n'a pas perdu son service du match. C'est chaud. Et là, c'est les Kazakhs qui mouillent, clairement. C'est-à-dire, ouais, c'est, non, il faut le dire, parce qu'il y a Golubev qui a été vraiment très solide depuis le début du match. Tu sais, Golubev, c'est la stabilité, Golubev, et puis Bublik, c'est la folie. Et il tient son match, il reçoit deux retours sur lui, retour long de la ligne, il rate deux volées.
Ah ouais.
Et des volées qui étaient quand même jouables. Là, tu dis, wow, merci, merci, un, ah, merci, deux, et balle de break, je ne sais pas si tu l'as vu, Bublik tente une deuxième à 200 km/h, et il te fait la double.
Ah, le fou.
Bien et sûr.
Les retours le long de la ligne sont voulus ou c'est des retours où tu ne peux pas faire quelque chose d'autre?
Voilà, moi je te dirais que dans la prépa de match, je l'avais conseillé. C'était un des points pour moi. J'ai dit, va tenter un petit peu plus sur le long de la ligne. Mais c'est un peu plus sur Bublik d'ailleurs. Mais ils sortent à ce moment, tu ne sais pas pourquoi, alors qu'ils ne sortaient pas du match. Tu sais, au début de match, tu as une tension. Tu as une finale de Grand Chelem, tu es chez toi, tu as une grande tension. Et moi j'ai senti qu'ils étaient très tendus. Et là, Bublik, quand il fait la double faute à 5-4, Bublik, il joue un all-in sur ce coup. Parce que je peux te promettre que s'il te fait un ace sur deuxième balle et il revient à égalité, il peut t'en coller deux autres.
Ouais.
Il est fou. T'imagines l'adrénaline qu'il est en train de générer. Il te fait un ace pour sauver la balle de break à 5-4 pour lui quand il sert pour le tournoi. Derrière, le mec, il peut s'enflammer et il t'envoie deux winners. Deux balles, et ça ne passe pas. Et là, du coup, tu te retrouves à 5-5. Et de nouveau, on a un momentum change. Comme on a, et là, on est bien. Là, on est bien. Je crois qu'il gagne. Attends, laisse-moi voir. Il gagne 7-1 dans le tie break.
Pierre-Hugues tient la baraque à 5-5.
Ouais, ouais,
5-6-6, c'est gros tie-break.
Ça se tient. Et puis, 7 ans dans le tie-break, les mecs craquent. Eux, les Français augmentent leur niveau de jeu. Et dans le troisième, c'est de nouveau tendu jusqu'à 3-3. Balle de break. Mais de nouveau, moi, je suis tellement dans l'émotionnel dans le troisième set que j'arrive même plus à voir que le tu sais, quand tu es dans l'émotionnel, tu arrives à voir que tu n'as pas le lead, que tu es en train d'être mené, parce que tu as tellement peur. Mais par contre, quand tu gagnes, quand tu es devant, tu as tellement peur qu'ils reviennent que tu n'es jamais confiant. C'est soit tu es défaitiste, en tout cas dans mon cas de figure, soit tu n'es pas sur ce tournoi, soit tu n'es pas rassuré. Et donc, break est à 5-4, 5-4 service à suivre, Pierre-Hugues, et service gagnant extérieur, côté égalité, sur Bublik. Et là, non, mais c'est un soulagement. Non, mais c'est un soulagement, mais c'est. Entre ce qui a été vécu dans la demi-finale, même moi de la maison en Suisse, ouais. J'ai hurlé.
Allez!
Non, non, mais j'ai hurlé trop. Mais un hurlement même pas provoqué qui sort du cœur tellement que j'étais en souffrance.
Ah ouais?
Ah non, 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 mais tu ne te rends pas compte. Il y avait tous les éléments. Alors, déjà, une parenthèse. Je ne suis pas un mec qui m'enflamme à ce point. Dans la stats, je reste le plus objectif. Et la stats me permet de rester objectif aussi. Et ouais. Pas partir dans trop les émotions. Mais je n'ai pas réussi. Sur ce double, il y avait tous les éléments, en tout cas pour moi, pour avoir zéro contrôle sur mes émotions. Il y avait dernier Français en lice, le public qui revient, gagner un grand chelem avec une équipe en tant que statisticien. J'ai gagné deux fois. J'ai gagné. J'ai été dans des équipes qui ont gagné deux fois le Masters, mais jamais un grand chelem.
Ah, bravo.
Il y avait ce premier grand chelem indirect, mais comme statisticien. Qui, évidemment, qui me tient à cœur. Il y avait ce marathon fait pour préparer tous les matchs. Et il y a eu cette demi-finale émotionnellement et cette finale. Il y avait tous les éléments pour vivre une délivrance, mais jouissive, quoi. C'était.
Est-ce que tu peux nous refaire le cri qui est sorti de ton cœur?
Non, je peux pas. Non, parce qu'il est sorti tellement fort. Non, puis j'avais en plus ma copine et ma fille qui étaient à côté, qui sont venues voir la fin du match. On était tous là, c'était un bon moment vécu en Suisse.
Je pense que ce bruit, ce rugissement est gravé dans la tête de ta fille à
Je
jamais.
leur ai averti, je leur ai dit, s'ils gagnent ce match,
Parce
je suis désolé, mais je vais hurler. Parce que je ne
que.
vais pas les surprendre, je ne vais pas faire pleurer ma fille, évidemment.
Je me souviens de France-Paraguay en 98, j'avais 8 ans.
Ah
Et
oui, Chilavert qui arrêtait tout.
Chilavert qui arrêtait tout, on gagne au tir au but, je crois.
Non, mort subite avec un but de blanc de la tête.
Exact, exact. Ouais, t'es là, mon
fan. J'ai vu ce match, il était sérieux aussi.
Et donc, j'avais 8 piges et je me souviens pareil de mon père qui gueulait devant la téloche.
Mais un soulagement.
Pour ta fille, c'est gravé ce match, hein. C'est gravé à vie.
Je crois qu'elle sent rien puis qu'elle capte rien. Mais honnêtement, j'avais jamais vécu un moment si fort émotionnellement dans une victoire. Parce que c'est pas mon style de m'enflammer. Je peux m'enflammer comme là quand on parle, mais quand tu es dans mon match, moi je suis carré.
Ouais.
Et puis c'est aussi le fait d'avoir été à la maison, d'être si loin, ça m'a rendu encore plus émotionnel. Parce que je pense que d'être dans le stade, je dois être tellement concentré sur ma stats, parce que t'as plein d'éléments extérieurs quand t'es dans le stade. T'as le public, t'as le machin. Donc tu dis, putain, dissipe-toi pas, reste dedans, et peut-être tu peux perdre un peu l'événement. Mais à la maison, je suis dans ma routine. Ça veut dire que je stats comme je te parle. C'est, j'ai aucune concentration dans ma stats. Elle sort naturellement. Donc je peux être complètement dans l'émotion.
D'accord.
Là, j'ai été submergé. C'est clairement, j'ai été. Tout le monde a été submergé, mais tu vois, même Fabrice Santoro quand il est sur le terrain, tout le monde en avait les larmes aux yeux. Quoi. Il faut dire la réalité. C'était un moment de sport inoubliable et je ne suis pas sûr que ça va se reproduire à ce point fort. Parce que je trouve, comme je t'ai dit, il y avait tous les éléments pour que ça soit très, très fort. Tous les éléments.
Félicitations, Fab, et merci, un grand merci de nous le faire vivre.
Ouais, bon, ben, je pense qu'un Nico et puis qu'un Arnaud, peut-être, auraient pu encore te le faire vivre mieux que moi. Mais voilà, moi, je te fais. D'après mon rôle dans l'équipe et où j'étais donc en Suisse et puis tu me connais maintenant, je suis un passionné et puis si j'ai fait tout ça dans la stat et tout, c'est finalement pour vivre ce genre d'événement,
ouais.
Tu sais,
incroyable.
Et te dire d'avoir peut-être pu contribuer à cette victoire dans mon 1%, mais c'est phénoménal,
c'est,
je veux dire,
gagné.
Moi je suis
ouais.
De toute façon depuis que j'ai commencé avec les pros sur le circuit, je peux pas être plus heureux. Je commence avec Nico, il gagne le Master, on gagne maintenant Roland-Garros. Je travaille avec Gilles Servara et regarde les résultats de Daniel derrière et puis d'autres résultats avec d'autres joueurs. Donc, ça va au-delà de toutes les espérances finalement que j'avais. T'en avais rêvé de ce genre de situation. Après, OK, t'es pas le coach, t'es le coach adjoint, voire en troisième, mais malgré tout, ça reste des émotions très, très fortes pour moi. Et si je me suis battu toutes ces années dans la stats pendant 14 ans, c'était finalement pour vivre ça. Donc, aussi, quand ça se passe… T'as des émotions personnelles qui reviennent, qui n'ont rien à voir avec Nico, qui ont à voir à ton propre parcours.
Ouais, ouais.
Et c'est clair que là, j'ai le smile depuis une semaine. Mais, et voilà. Mais beaucoup de boulot, par contre, dans le rouge. J'ai aussi ressenti, je ne peux pas me faire 4 semaines comme ça, je suis dans le rouge là. Je suis très fatigué.
Est-ce que je dois rappeler si les auditeurs découvrent ce hors-série pour la première fois et te découvrent au passage, c'est que tu as bossé plus de 12 ans un peu solo dans ton bureau en Suisse, tu as analysé plus d'un million de points, tu as sorti un livre que tu as remasterisé parce qu'avant tu étais parti sur des profils types, tu en as fait quelque chose de plus condensé. Enfin, bref, c'est un travail de l'ombre monstrueux et de gagner ce premier Grand Chelem, ben, c'est juste un kiff, quoi. Bien joué.
Ouais, bah c'est Nico et Pierre qui l'ont gagné, mais comme je te dis, si j'ai pu amener quelques points supplémentaires dans ce sacre, ça, et même ça a été mon job, c'est ce que j'ai essayé de faire, bah, j'en suis le plus content. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais te retirer. Et puis, génial. Non, c'était pour ça que. Génial. Et puis, félicitations surtout à Nico, Pierre-Hugues, Arnaud, Benjamin Balleret, tous ceux qui sont dans leur entourage plus proche que moi. Je te dis, moi, j'ai un rôle, je suis vraiment en deuxième cercle ou troisième cercle par rapport à eux. Je fais mon job. Je le vis à ma manière, tu vois.
Ouais.
Mais bravo à eux, quoi, surtout. Et merci de m'avoir fait vivre ce genre d'émotion. Je ne peux que les remercier, eux. Hein.
J'ai envie de dire, t'es là, Lasbar. Putain, t'es là. Et tu disais que...
Il s'accroche.
Tu disais que Yves Allegro avait rejoint le team de...
Je pense qu'ils seront mieux de te dire eux, mais il me semble que maintenant, c'est le coach avec Benjamin Balleret, Pierre-Hugerbert. Donc déjà, à Madrid, on était ensemble, il était là.
D'accord.
Et puis, je crois que maintenant, ça s'est officialisé. Il est arrivé le jour de la finale. Et puis voilà. Mais c'était Benjamin qui était toute la semaine avec Pierre-Hugues.
Ils ont l'air de bien enchaîner au Queens. Là. Ils ont gagné au Super Tie Break, je crois, du premier tour.
Surtout bien enchaîné en termes d'émotion. Premier tour, 3 balles de match sauvées.
Wow. Mais donc évidemment, ils surfent sur la confiance, mais physiquement et tout, tu penses qu'ils sont pas trop entamés? Enfin, comment tu penses qu'ils arrivent à gérer la suite là?
Nico, au terme de Nico, c'est très très bien organisé en termes de récupération, de machin. C'est un
Très trop, ouais.
Roger hein, par rapport à ça. Il a 39 ans, il connaît parfaitement son corps et je l'ai vu dans la semaine à Madrid. Il y a des protocoles, tout est bien fait, le repos, le machin. Donc, je pense que bien sûr qu'il y a un côté une fatigue physique évidemment, mais avec ce rush émotionnel, et puis Nico retourne au Queens où il se sent bien, avec cette victoire, il voulait jouer, il voulait aussi se préparer pour Wimb. Parce que, rappelle-toi, ils n'ont plus qu'une semaine de prépa. Ça fait Queens. S'ils ne jouent pas le Queens, ils doivent jouer la semaine avant Wimbledon. Donc c'est mieux malgré tout de jouer le Queens, prendre tes repères sur herbe et tu fais ton break, pas ton break en parenthèse, la semaine prochaine pour engager Wimbledon. Et ils vont être dans les favoris de Wimbledon maintenant. On est dans les 3-4 favoris.
Aussi affûté physiquement et pro, tu penses qu'il peut tirer jusqu'à quoi encore 2, 3, 4 ans peut-être?
C'est ça, ouais. Le double est
Incroyable.
quand même moins contraignant physiquement que le simple. C'est clair, clairement moins.
C'est quoi
Sinon, il prend encore du simple, hein.
ces Zimonjic qui a attiré le plus, non,
Je sais pas, il
jusqu'à
y avait
maintenant?
Leander Paes aussi, il me semble qu'il a joué jusqu'à 45 ans.
Ah
Tu sais,
oui.
je pense que Nico, du moment que son corps. Regarde-le, Nico. Tu as vu comme il en. C'est ça que tu vois chez les grands champions. Tu vois dans leur regard et même dans ce qu'ils mettent en place, il a encore envie de gagner comme un enfant de 18 ans, comme un adolescent de 18 ans, comme Roger. Donc, je pense que si son corps tient, son envie, elle ne va pas baisser. Et puis surtout, imagine-toi, tu gagnes un grand chelem à 39 ans, tu ne vas pas te dire, ouais, mais 40 ans, moi, je crois que je vais arrêter. Si j'en ai gagné un à 39, peut-être je peux revivre ces émotions et tout ça à 40. Peut-être Nico arrêtera du moment qu'il sent que ses performances sont en dessous de ce qu'il pouvait faire. Et puis que son corps le lâche. Moi, je le vois comme ça. Parce que c'est un grand champion. Et puis, il nous l'a encore prouvé. Et puis, même, il l'a prouvé aussi, je reviens, statistiquement, comme étant le meilleur joueur en moyenne sur le terrain, sur la quinzaine. Dans ses préparations, dans le fait d'engager aussi quelqu'un comme moi, ça montre un professionnalisme et une envie. Et Nico, il est là. Hein. Il est 100% là, Nico. Hein. Et ça fait plaisir. Hein, et c'est un exemple, je pense, pour beaucoup de Français. Et Nico, ça va être un emblème de la France après carrière. Donc, je ne sais pas ce qu'il fera après, mais de toute manière, il restera dans le tennis français toute sa vie, je
Il est là,
pense.
le Nico, putain.
Ah, il est plus que là. Et merci, Nico, de m'avoir fait confiance et puis de me permettre indirectement de vivre ce genre d'émotion. Je ne peux que le remercier.
Génial. Paes, 47 ans,
Ouais, donc,
177e actuellement.
non, mais il arrête, il a maintenant, je pense, pour de bon. Mais il peut encore avoir deux, trois bonnes années devant lui, Nico. Et s'il garde cette motivation. Bah c'est génial.
Trop bien. J'ai un regret, Fabrice, c'est que j'ai pas lancé l'enregistrement.
Arrête. Je vois bien que tu as des cordes. Je le vois. Non, mais là, mec, si tu me demandes de me la refaire comme j'étais là, je suis grillé. Et là, je me suis dit, même aujourd'hui, émotionnellement, je suis fatigué qu'à cause d'avoir reparlé de tous ces trucs.
Ok, on a puisé. On se refait peut-être un petit hors-série après le Queen s'il se l'envoie. Allez.
Et puis attends, là, sans te dire qu'aujourd'hui, j'enchaîne avec trois matchs. Hein.
Ouais.
Pierre-Hugues, il joue la demi, Pierre-Hugues, Nico joue la demi, Félix joue le quart à Alès, et puis Bouskova joue quart à Birmingham. Donc ça a enchaîné non-stop. Et cette semaine, j'avais 7 clients.
Wow.
Donc j'en ai 5 plus 2 qui ont fait un essai. Donc ça continue aussi de bien aller pour moi. Et évidemment qu'avec des succès comme Nico, ça me permet quand même de me mettre en avant au niveau marketing. Et voilà, et maintenant les gens sont de plus en plus intéressés à la stat, ils croient de plus en plus. Et moi, maintenant, je vais devoir commencer à trouver des solutions pour que je puisse continuer à stater plusieurs équipes, parce que ça devient de plus en plus contraignant, de plus en plus d'équipes. Et d'un côté, je ne peux pas dire non, parce que c'est mon boulot et ça a été mon rêve de faire ça. Mais d'un côté, je dois me préserver et trouver des gens maintenant qui vont m'aider de
Je
plus en
sens que
plus.
la Sbarro Agency va bientôt recruter. C'est
On est à
le.
ça. J'ai déjà commencé en fait. On est à ça. Et là,
Trop bien.
je peux avoir 6 clients. C'est ce que j'avais à partir de 7, 8, 10. Je voudrais bien en avoir à peu près 10 parce que tu vois, divisé, il me faudra des gens qui m'aident. Et après, c'est complètement gérable. Mais tu fais beau. Tu vois, ce qu'il faut faire moins, c'est la saisie des matchs.
D'accord.
La saisie des matchs, c'est ce qui te prend le plus de temps. Les prépas de match, c'est pas ce qui te prend le plus de temps si tu as la donnée. Et les feedbacks, le feedback, ça prend pas beaucoup de temps. Et les matchs. Mais la saisie.
La transition est toute faite pour rappeler du coup qu'on a tourné deux contenus que
Allez.
les auditeurs peuvent récupérer. Alors, trois, on va dire. Le premier, c'est les quatre optimisations stats que l'on a ouvertes gratuitement, qui sont en téléchargement libre, en lien dans la description. En fait, on a ni plus ni moins repris ton livre de l'époque, il y a 3 ans.
Allez, on l'a bien optimisé. On l'a bien optimisé. Voilà, 20 heures de podcast. Hein.
Sur lequel tu avais envoyé 50 optimisations pour progresser dans son jeu grâce à la stat. On a repris 4 au format audio d'1h14 pour vous donner un avant-goût. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ensuite 33 clés qui sont payantes, mais ultra qualitatives. Les retours sont hyper bons. Ouais, et si vous voulez...
Ça fait plaisir. À part ça, ça fait plaisir. Parce que les retours sont super bons et ça fait super plaisir de que toutes ces études puissent servir à des gens. Parce que c'est ça aussi le but. Ce n'est pas que de travailler avec des pros, c'est qu'à tous les niveaux, on puisse... apprendre des choses et évoluer. Et ça fait super plaisir d'avoir des retours positifs. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir.
Et une fois qu'on a mieux compris les styles de jeu, son propre style de jeu grâce à ses optimisations, on peut aller encore plus loin en statsant ses propres matchs, c'est-à-dire en étant dans les chaussures de Fabrice Barrault. Et pour ça, on a fait ensemble une formation pour analyser ses propres stats, voir ses forces, ses faiblesses, ainsi que celles de l'adversaire. Et ça sera donc également en lien dans la description. Je vais vous faire une petite promo sur quelques jours.
Donc, allez,
n'hésitez pas à aller regarder. En tout cas, merci Fab de nous avoir fait revivre cette semaine incroyable.
Merci à toi aussi, parce que ça m'a aussi permis de... Tu vois, ça a enchaîné tellement vite avec la saison sur herbe que ça m'a aussi permis de faire un retour sur toutes tes émotions, un retour un peu plus objectif.
Ouais.
Merci à toi, parce que pour ça aussi, ça restera gravé. Restera gravé d'autres moments, restera gravé à vie sur YouTube.
C'est beau. Allez. Ce que tu dis. Je voulais faire un hors-série de 30 minutes. Encore une fois, c'est parfait. On est dans les clous.
Quoi, 55
J'espère que les gens vont kiffer. En tout cas, faites-nous des retours. Mettez-nous un petit commentaire, savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager. Et puis, à très vite. Si la paire s'envoie le Queens, on se fait un hors-série sur le Queens. Et puis sinon,
Plutôt Wimbledon.
Les deux, hein. Y a pas de raison.
Allez,
à très vite, Fab.
À bientôt, Max. Ciao.
Merci d'avoir suivi ce nouvel hors-série Stat avec Fab. Venez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Récupérez les deux formations qu'on a créées avec nos experts en Stat. Elles sont en lien en description de l'épisode juste en dessous. À demain pour un nouvel épisode, comme chaque mardi. Prenez soin de vous. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.